Voilà, normalement le live est lancé, donc on peut dire bonjour Alex pour la troisième fois.
Bonjour Max, pour la troisième ou quatrième?
Ouais, voilà. Vas-y Alex, je te laisse présenter l'invité qu'on a avec nous.
Alors, il faut dire avant tout qu'il y a 3 semaines, nous avons fait un magnifique quiz extrêmement difficile sur les musiques à Disneyland Paris. Et le vainqueur est ici avec nous ce soir. Il a réussi à être premier sur ce quiz extrêmement ardu. Et il est avec nous. Bonjour, Steamboat.
Hello, hello.
Alors, Steamboat, peux-tu te présenter un petit peu?
Oui, bien sûr. Je suis fan Disney depuis tout petit, comme bon nombre d'entre nous. J'ai grandi avec les VHS, etc. J'allais à Disneyland Paris chaque année. Et donc, depuis, c'est une passion qui a grandi jusqu'à le moment ultime de ma vie de passionné en gagnant votre quiz il y a 3 semaines. Et donc, c'est avec grand plaisir que je suis avec vous ce soir.
Et bah, plaisir vraiment partagé pour le coup. Et donc, tu as eu l'honneur de choisir le thème de ce soir. Peux-tu nous en dire plus? Déjà, pourquoi tu as choisi ce thème?
Alors, pourquoi j'ai choisi Mary Poppins? Parce que c'est le chef-d'œuvre ultime de Walt Disney, c'est son dernier cadeau avant de partir, et c'est la culmination de tout ce qu'il a pu entreprendre au fil des décennies passées avec son entreprise, que ce soit l'animation, la stop motion, les films live, les attractions, enfin tout le savoir-faire de Walt Disney Productions est dans Mary Poppins. Voilà, culte.
Je ne peux que être d'accord avec ce que tu viens de dire. C'était très très bien résumé. Donc, on va directement commencer dans l'univers de Mary Poppins avec une petite présentation du film. Alors, il faut savoir que le film prend sa source dans une série de livres pour enfants écrits par Pamela Lyndon Travers. De son vrai nom, Helen Lindhoff Goff, née le 9 août 1899 en Australie dans une famille d'origine irlandaise. Elle rencontre le succès en 1934 avec la parution du roman Mary Poppins et bien sûr de ses suites. Alors, il y en a une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept suites entre donc 1934 et 1988. Pamela Lyndon Travers décède à Londres en avril 96. Qui a quand même vécu une sacrée, sacrée bonne dose d'années. Alors, Walt Disney doit l'idée d'adapter Mary Poppins au cinéma à l'une de ses filles qui avait littéralement dévoré le roman, non pas littéralement, sinon ce serait étrange. Il fait une demande officielle à l'auteur en 1938 qui refuse. Elle finit par accepter en 1961. Donc, l'auteur pose de très nombreuses conditions. Elle exige d'avoir un droit de regard sur la production et se réserve le pouvoir de retirer les droits à tout moment et refuse même le genre du film d'animation. D'ores et déjà, je pense qu'on peut dire que si vous avez vu le film Dans l'ombre de Marie, vous avez vu une version, je vous rappelle, romancée, enfin vraiment scénarisée de ce qui s'est vraiment passé, hein. On en reparlera, je pense, plus tard. Les musiques sont créées par les frères Richard et Robert Schumann, considérés comme les meilleures compositions. Comme leur meilleure composition, excusez-moi, avec 24 morceaux. Les chorégraphies de Marc Brault et de Didi Wood, et les compositeurs proposent à l'actrice Julie Andrews de venir. Ils proposent Julie Andrews à Walt Disney, qui tombe sous le charme total. Julie était censée jouer dans la version cinématographique de la comédie musicale My Fair Lady, mais le rôle est allé à Audrey Hepburn et elle a accepté de jouer Mary Poppins. Faute de mieux. J'adore
Je t'ajouterais
énormément
même
cette scène.
sur ce que tu dis là sur Julie Andrews,
Ouais.
que c'est Walt Disney qui est allé voir la comédie musicale Kaamelott dans laquelle elle jouait et qu'il l'a vue sur scène et qu'il est allé ensuite la féliciter en backstage et qui lui a proposé le rôle. Et il se trouve aussi que Julie Andrews attendait un enfant et etc. Donc elle n'était pas tout de suite disponible.
C'est
Et
vrai.
oui, il y a eu ces histoires de planning qui au final ont arrangé tout le monde puisqu'elle a eu le rôle de Mary Poppins et Et elle aura fait un petit tacle, du coup, aux Oscars, vu que remportant l'Oscar de la meilleure actrice, elle a fait un pied de nez à Jack Warner, qu'il n'avait pas choisi pour l'adaptation filmée de My Fair Lady.
J'adore énormément cette anecdote. Vraiment, tu as bien fait de la dire. Pour Bert, c'est Dick Van Dyke qui s'y colle, sachant chanter et danser et venant directement de Broadway. Si je m'abuse, Dick Van Dyke, c'était pas forcément le choix préféré de Pamela. Alors je ne sais pas du coup si c'est parce que j'ai vu le film Dans l'ombre de Marie que je dis ça ou si c'était vraiment vrai. Est-ce que tu en sais?
Non, c'était véridique. De toute façon, même si Dans l'ombre de Marie, il y avait des... C'est romancé, comme tu l'as dit. La partie session de travail, toutes les sessions existent bien sur vidéo cassette. C'est ce qu'on entend en générique de fin. Et c'est disponible d'ailleurs en CD. Walt Disney Records les a édités. Donc vous pouvez vraiment entendre tous les dialogues de Pamela avec Bill Walsh et Robert Sherman et Don DaGrady, etc. Et non, elle n'était pas fan de Dick Van Dyke, qui justement à l'époque faisait, il vient de Broadway, mais il faisait aussi le Dick Van Dyke Show, si j'ai pas de bêtises, c'était déjà la sortie, ce qui a été remis en lumière avec WandaVision il y a pas si longtemps. Donc, oui, c'était quelqu'un de connu quand même, c'était un sacré showman déjà à l'époque.
C'était aussi ce qui était dans Retour à le futur.
Mary Poppins, à sa sortie, est encensée par la critique du monde entier et gagne 5 Oscars. Meilleure actrice pour Julie Andrews, meilleure chanson pour Chem Chemene, meilleur montage, meilleurs effets spéciaux et, bien sûr, ce qui nous intéresse surtout aujourd'hui, c'est meilleure musique. Alors Mary Poppins, vous l'aurez compris, c'est l'œuvre emblématique du catalogue Disney. Il a fait l'objet en 2013 d'un film intitulé Dans l'ombre de Marie, la promesse de Walt Disney, j'avais totalement oublié que c'était ça le sous-titre d'ailleurs, produit par Disney et retraçant toute l'étape de sa production à sa sortie. Tom Hanks y incarne ainsi Walt Disney et je l'adore dans le rôle de Walt Disney et Emma Thompson le rôle de Pamela Lyndon Travers. Du coup, Steamboat, qu'est-ce que t'en penses toi de ce film de, je parle de Dans l'ombre de Marie par rapport à Mary Poppins.
Pour moi c'est un superbe film, faut le prendre pour ce qu'il est, c'est un film, c'est pas un documentaire. Il y a, en fait je pense que c'est un film très réussi émotionnellement parlant. La reconstitution, ça ne peut que plaire aux fans Disney de revoir les studios à cette époque de cette façon. Et puis, même si c'est romancé, il y a quand même une part de vérité là-dedans qui fait découvrir au public des choses qu'ils ne savaient pas forcément. Donc ça reste très très super bien quoi. Après, comme c'est concentré que sur Mary Poppins, il y a beaucoup de choses quoi, sur la vie de Pamela Lyndon Travers qui sont laissées de côté. Et par exemple, le fait que sa mère se suicide, c'est pas arrivé là tout de suite au même moment que c'est décrit dans le film. Il y a des choses aussi qui sont totalement omises de sa vie privée. Dans les années 40, si je ne dis pas de bêtises, elle a adopté un enfant. Elle voulait adopter un enfant, sauf qu'elle a décidé de séparer des jumeaux. Donc ça décrit encore, ça rend la personne encore plus complexe parce que c'était pas la personne la plus sympathique du monde. Clairement, elle avait un peu des problèmes d'affection et de sympathie envers les gens. Mais donc voilà, tout le film montre une partie de ce qu'elle a enduré et permet de décrypter un peu l'auteur derrière l'œuvre. Mais il y a encore plein d'autres facettes qui sont pas explorées par le film, mais c'est voulu, hein, voilà. Et non, je trouve que c'est vraiment un super film. Et comme tu dis, Thomas, il est génial.
Ah mais le rôle de Walt Disney lui va tellement bien, c'est impressionnant.
On aimerait qu'il fasse que des suites ou qu'il refasse toute la vie de Walt Disney en plusieurs films.
Totalement. Ouais. Si jamais il y a un biopic de Walt Disney, je veux que ce soit lui, directement.
Tom Hanks fait très bien, je trouve, les personnages sympathiques des États-Unis.
Oui, parce qu'il a fait aussi Mr. Rogers, il n'y a pas si longtemps. A Beautiful Day in the Neighborhood est sorti. Et il incarne justement une vedette des années 50 ou 60 de la télévision, je sais pas de bêtises, qui s'appelait Mr. Rogers.
Ah oui,
je pense que c'est même plus tardif que ça, je dis 50-60, mais je crois que c'est plus récent que ça. Je n'ai plus la certitude des dates.
Donc le film Mary Poppins sort en France en septembre 65, un an après sa sortie aux US. Maintenant, il est quand même temps de parler de l'histoire de Mary Poppins. Printemps 1910, dans un quartier résidentiel de Londres, au début du siècle, Mr. Banks, un banquier prospère, son épouse, une suffragette convaincue, demandant le droit de vote pour les femmes si vous ne savez pas ce qu'est une suffragette, et leurs deux enfants, Jane et Michael, habitent une riche demeure. Trop occupés à gérer leurs affaires, les parents laissent, sans intervenir, leurs deux bambins rivaliser de mauvais tours pour faire tourner en bourrique les nurses qui se succèdent à un rythme effréné. Fraîchement recrutée, Mary Poppins, nounou descendue des nuages et dotée de pouvoirs magiques, parviendra-t-elle à apporter à ses deux nouveaux protégés les clés du bonheur familial ? Ça, c'était, voilà, on a l'habitude, à chaque live, de faire une histoire comme ça. Et encore, celle-là, elle est très soft par rapport à celle qu'on a pu faire, n'est-ce pas, Max ?
Oui. Je suis sur la Reine des Neiges, j'étais magique. Oui. Et puis là, c'est bien, la petite fin ouverte, on en parlera après. Mais la fin, en fait, les finalités du film, je ne l'ai compris qu'avec le film Dans l'ombre de Marie.
Pareil.
J'avais eu du mal à piger que, bon, je dis maintenant que, en fait, Mary Poppins venait vraiment pour sauver le père et puis la famille, plus que pour calmer les enfants, entre guillemets.
Parce qu'ils l'ont bien explicité aussi dans le retour de Mary Poppins.
Ok, et on va passer à la musique.
C'est supercalifragilisticexpialidocious. C'est vrai que ce mot trop long est parfaitement atroce. Mais faut le dire et vous serez à la page et plus précoce.
Supercalifragilisticexpialidocious. Donc la musique, dans la musique tu m'as dit qu'il y avait 24 chansons, on ne comptait que 13. C'était un point
alors,
avec
quoi
il y a les reprises. Alors, avec les reprises, ça fait 15, 17, 18. J'en ai compté 18, 19 avec les reprises. Après, il y a eu beaucoup de chansons qui ont été coupées. J'en parlerai pas du tout ce soir. Je les ai déjà entendues. Elles sont présentes, je crois, dans le Walt Disney Records. Dans la collection Legacy.
Je pense savoir pourquoi je disais 24, peut-être que c'est à cause du musical.
Du musical, il y a dû y avoir des rajouts dans le musical. Toutes ces chansons fonctionnent avec un système donc de habituel, de leitmotiv. Chaque mélodie représente un personnage, représente une idée, une action, un événement, un sentiment. On va commencer directement dans le vif du sujet. Je l'ai fait dans l'ordre d'apparition du film. La toute première musique, je passe l'ouverture.
Oh, elle est belle pourtant.
On en parlera au moins des orchestrations. Donc les chansons des frères Sherman, hein, bien sûr, j'ai oublié de le dire. Donc la première chanson, c'est Chim Chim Cherry, qui est en fait la ritournelle du film, chantée par Bert. À la manière d'un saltimbanque, il raconte ce qui se passe et commente en fait la vie qu'il y a dans Londres. Puis au final, il commente ce qui se passe dans l'histoire du film. À chaque fois que cette chanson arrive, il se passe quelque chose de nouveau, il y a un nouvel acte dans le film. Au tout début, on rentre dans l'histoire, donc la chanson découvre, on pose le décor, on est à Londres, passe telle chose dans la vie avec tel personnage, enfin, telle personne plutôt, qui au final n'apparaîtront pas du tout dans le film. Par contre, c'est là qu'il annonce que le vent est à l'est, donc en fait qu'il annonce l'arrivée de Mary Poppins. Ensuite, il y a une deuxième fois où, lorsqu'il revient, c'est lorsque je crois qu'il dessine sur les pavés. C'est à partir de ce moment-là qu'il y a un deuxième acte, que je considère un deuxième acte, et qu'ils vont partir en vadrouille, il va se passer plusieurs choses, ils vont aller dans les pavés, dans le dessin animé, il va se passer aussi donc, la course de chevaux, l'oncle Albert. Il se passe ça. Et donc le troisième acte, la ritournelle revient, si je ne m'abuse, au moment de Sabine Time, donc au moment où en fait on va découvrir un petit peu aussi que le père des enfants, Mr. Banks, va changer un petit peu. Il devient le méchant qui devient gentil, une sorte de méchant, un peu antipathique. Donc voilà, et donc Chim Chim Cherry, c'est une petite chanson toute mignonne, à trois temps, une petite valse. Qui est vraiment dansante, lui, le côté vraiment très saltimbanque, à trois temps, qui est un petit peu dansant, où est-ce qu'on raconte les choses, avec une mélodie très très simple, plutôt parlée, hein. Voilà, c'est vraiment une mélodie très très simple qui tourne autour de cette note-là, qui est vraiment en fait facilement, facilement retenable et qui permet de raconter de la manière la plus simple ce qui se passe sans pour autant être parasité par d'autres éléments musicaux plutôt sonores. S'ensuit la chanson Sister Suffragette qui est le leitmotiv de la mère. C'est une chanson avec un tempo de marche plutôt engagé, plutôt motivante. Elle est forte, elle est énergique, elle est rapide. Un petit côté un petit peu militaire, si on peut dire. C'est vraiment pour permettre le vote des femmes dans la société anglaise de l'époque. La mère, au final, c'est une suffragette, elle a la fiancée, tout ça. Par contre, dès que son mari revient, ses idées un peu féministes, mais c'est dommage, ses idées un peu féministes s'effacent pour pouvoir s'occuper de son mari comme c'est prévu. Que la mère apparaît, on va entendre cette mélodie-là tout au long du film. Alors, la mère n'apparaît pas tant que ça, donc au final on n'entend pas. Par contre, ça va être intéressant, c'est au niveau de la chanson Step in Time, tout à la fin. Dès que la mère apparaît, on entend ça, il y a vraiment tout un de pot-pourri qui va arriver.
C'est pas forcément le morceau, pour le coup, qui m'a le plus marqué.
Non.
C'est presque dommage, au final.
C'est la même chose que le thème du père. C'est comme tu disais, c'est un peu militaire, mais ça montre surtout que le père et la mère ont une vie très rangée, très organisée, et il n'y a pas la place pour l'improvisation ou l'imagination. Alors les choses se passent comme ça, ils ont leurs aspirations et elles ne sont pas centrées sur leur famille. Voilà.
Après, le thème du père est quand même plus marquant, il revient plus souvent, il évolue aussi au fur et à mesure que le père
évolue. Oui, comme tu disais, le père est comme, c'est un des personnages quand même principaux, même si on s'en rend plus compte avec le film dans le mari, et du coup lui il a la possibilité d'évoluer à la fin du film, et au final Mary Poppins ne fait pas vraiment la rédemption de la mère, parce que la mère aussi est plutôt absente. Quand les enfants sont partis au parc, elle s'en inquiète, mais bon, elle n'est pas non plus à courir dans le parc partout pour elle a aussi ses torts. Et on est plus concentré sur le père au final. Ça, mais après c'est sans doute signe justement de la société de l'époque. C'est-à-dire, comme elle se bat pour son indépendance, et tandis que son mari peut travailler et subvenir aux besoins de la famille. Enfin, c'est un autre modèle de famille, quoi.
C'est ça.
Après aussi,
il y a eu pas mal de commentaires là-dessus, d'ailleurs, sur un autre système de famille, un ancien système de famille. Les gens, au fur et à mesure, se sont rendus compte, et c'est ce qui a été pas mal modifié dans Mary Poppins, le retour d'ailleurs, ce rapport à la famille.
Après aussi, je pense qu'il n'y avait pas la place de mettre un personnage en plus. Tel que celui de la mère, comme d'autres personnages, je pense, dans les livres de Travers sont développés, il n'y avait peut-être pas non plus la place pour pouvoir l'imposer dans le film. Il y a déjà Mary Poppins, les deux enfants, Bert, il y a le père. Est-ce que rajouter la mère qui a juste une chanson, l'oncle Albert qui a aussi qu'une seule chanson, ils reviennent vraiment jamais, il n'y a pas d'évolution. Il aurait peut-être fallu faire une seule chanson pour le père et la mère, mais avec deux...
Ça aurait été,
voilà,
à mon sens, plus intéressant, effectivement. Soit on ne la met pas, soit on la met
c'est
bien.
Ça.
C'est ça qui est dommage.
Là, elle est posée ici. C'est vrai que faire une chanson où on confronte les deux caractères les deux caractères du personnage sur une musique, ça aurait été tout aussi intéressant.
Je pense que je sais qu'on fait souvent l'analogie, c'est un peu cette métaphore que le modèle du père, je pense que ce qui a plu au Walt Disney quand ils ont établi le personnage, c'est les artistes ont vraiment voulu à tout prix, on fait l'allusion que c'était Walt Disney, et ça se voit un peu sur le look de David Tomlinson. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une manière de renvoyer à Walt Disney lui-même, qui passait bon nombre de ses journées au studio et qui avait seulement le dimanche où il emmenait ses filles au parc, au Griffith Park, ou parfois au studio aussi. Donc voilà, il les emmenait sur son lieu de travail, sans doute parce qu'il n'avait pas forcément tout le temps du monde. Après, je ne dis pas, c'était un père très aimant, ses filles l'ont souvent dit, et ce n'était pas du tout négligent, mais je pense qu'il s'identifiait sans doute à ce personnage. Et c'est quand même le cœur. C'est juste que on est tellement fasciné par la magie de Mary Poppins que c'est ce qui nous ressort plus enfin, au visionnage, en fait. C'est ce qu'on retient quand on est enfant. On ne voit pas le second message, si je puis dire.
Quel est le morceau suivant?
The Life I Lead, donc c'est le thème du père.
On en a un petit peu parlé au final.
Voilà, terrible contradiction, on passe de la mère qui affirme ses idées, et puis d'un coup, en fait, on a le père qui, lui, ne vit que pour lui et son travail, et puis qui s'occupe de sa famille lorsqu'il le peut. La preuve, lorsque le père rentre chez lui, il y a les enfants qui sont là, la mère est totalement paniquée, le père, il se rend même pas compte. Enfin, d'accord, ok, les enfants sont pas là, ah oui. C'est un peu à la manière des suffragettes, tu disais Guillaume, c'est une chanson avec un tempo de marche où le père m'exprime ses sentiments, si sentiments il a, c'est plutôt affirmé, il raconte toute sa vie, il déblatère, il s'écoute que lui, et puis voilà. C'est vraiment la même chanson que les suffragettes, mais pour le père. Là où c'est intéressant, c'est que cette chanson-là, elle évolue vraiment au fil du film, lorsque le père emmène ses enfants à la banque, ensuite lorsque le père perd son travail, se rend compte que la banque est en train de faire faillite à cause de lui, déjà en train de faire faillite, ça le met au plus mal, et en plus de ça il se rend compte que c'est un petit peu de sa faute. Voilà, c'est une chanson qui évolue beaucoup, mais j'ai pas plus de trucs à dire sur le point de vue vraiment musical. C'est un standard, c'est quelque chose de très simple, on comprend plus les paroles que la mélodie en elle-même, la mélodie qui est même pas si marquante que ça, en fait.
Et c'est surtout que c'est des chansons qui, enfin, les premières chansons de Mary Poppins exposent vraiment les objectifs des personnages. Il y aura après celle des enfants qu'on discutera juste après, et elles se répondent entre elles, en fait. On sent très bien au bout des trois premières chansons qu'à aucun moment elles ne se rejoignent. Je veux dire, Sister Suffragette ne reprend pas le thème de The Life I Lead et compagnie. Mmh. Alors que quand Mary Poppins débarque, elle répond au bout d'une heure de film à le personnage du père, Monsieur Banks, sur l'air de Spoonful of Sugar. Mmh. Et ça répond musicalement pour venir apporter justement le morceau de sucre et lui faire comprendre qu'il peut aller au-delà de ce bonheur qui passe uniquement par son travail au final.
Voilà, bah, tu me spoil la moitié de mon life.
Donc c'est trop bien, c'est super.
La chanson suivante, c'est Perfect Nanny. C'est c'est le cahier des charges que demandent les enfants pour avoir une
le cahier des charges
pour avoir une nounou parfaite. C'est fait sous la forme d'une petite comptine qui tourne toujours autour d'un accord suite de fa, ça fait tan 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 pa la pa ta ta la ti ta 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 ti ta pa de ton ta la ta la ta la ta. Voilà. Voilà, ça tourne toujours un truc, c'est très facile, en même temps il faut, voilà, c'est la même chose que pour les parents, mais du point de vue des enfants, il faut qu'on comprenne facilement les paroles. Donc voilà, la construction de chaque bout de phrase se construit de la même manière, donc dominante, tonique, on est un peu en suspens, on se repose, où est-ce qu'on explique la fin de la phrase. Voilà, c'est sujet, verbe, complément, point, sur le point de vue musical, donc c'est, comme je disais, c'est vraiment la même chose. Hein. Toli, tala, toli, tala, tila, 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 tila. Voilà, on est tout le temps autour de ça. Si on n'a pas ça, c'est pas stable. Et voilà, c'est vraiment très gentillé, c'est pour montrer l'insouciance des enfants, et puis à quel point ils ont vraiment le désir d'avoir une nanny à leur image. Cette nanny à leur image, elle arrive tout juste après. Elle arrive par les airs, par les nuages, et donc c'est Mary Poppins qui arrive en fait sur la mélodie de Spoonful of Sugar, et tout doucement on entend cette mélodie. Dès qu'on entend cette mélodie, on sait que Mary Poppins, d'un coup, elle arrive. C'est le même procédé qui est utilisé dans le retour de Mary Poppins. Lorsque Mary Poppins revient aider le fils Banks, on entend cette mélodie de la même manière que dans, avec les mêmes instruments, c'était les corps et les corps et les cordes, que dans le premier film. C'est donc...
Les mélodies aux corps sont souvent magnifiques.
Oui. c'est donc le thème de Mary Poppins, et puis en même temps c'est le thème un peu du sauvetage. surtout le refrain, ce que je viens de jouer, dès qu'elle apparaît en temps stem, c'est un standard. Donc le standard, pour rappeler, ça dure 16 mesures, hein, 2 fois 16 mesures au 32 mesures, c'est-à-dire que toutes les minutes environ, on aura fini la chanson, on va pouvoir la relancer de la même manière. Il y a deux parties. La première partie, elle est très droite, très parlée, avec tout le temps les mêmes notes. Et donc, comme voilà, c'est du récitatif à la manière de l'opéra, on explique l'action, on explique un petit peu ce qui va se passer. Et ensuite, il y a le refrain, donc. Qui explique plutôt là les conséquences de les effets de cette Spoonful of Sugar. C'est vraiment la première grande section musicale digne d'une comédie musicale avec l'action qui avance en temps réel. C'est le thème de 16, enfin le thème de 2 fois 16 mesures qui est joué et puis qui est varié en fonction de ce qui se passe à l'écran. Si les jouets ils bougent, il va se passer ça. S'il y a un coup de vent, il va se passer ça. Il y a le petit oiseau qui arrive, qui siffle, ben, on va mettre le petit oiseau qui siffle. Petit oiseau qui, coupez-moi si je me trompe, a été doublé par Julien Andrews. Je crois que c'est ça, le petit oiseau qui arrive d'un coup, qui se pose sur la main à Mary Poppins, donc a été doublé par Julien Andrews, et c'était le premier animatronique créé par l'entreprise Disney.
Non, oui, en fait, c'était un des premiers, oui. Et ce qui est amusant, c'est que justement, c'est via un oiseau aussi que Walt Disney a commencé à se lancer dans la robotique, parce que, d'après ce qu'on sait, c'est quand il est allé... lors d'un voyage, il est tombé sur un oiseau mécanique, en fait, et il a été fasciné, il l'a acheté, et il l'a ramené à ses équipes, et il aurait dit, voilà, démontez ça, et trouvez comment ça marche. Et à partir de là, c'est comme ça que sont nés les audios animatroniques, les prémices, et donc c'est plutôt amusant de voir que quelques années plus tard, c'est de cette même manière que ce sera présenté, une manière beaucoup plus poussée, bien sûr. Et puis, au final, les recettes de Mary Poppins feront que ça va... permettre de financer en fait un département Imagineering qui vont être nommés à un hommage au film du coup qui va se nommer MAPO, donc pour Mary Poppins du coup, et qui veut aussi dire pour Imagineering Manufacturing and Production Organization en fait.
Et donc on a une variation conséquente à chaque fois du chaque refrain qui a été qui a été orchestré par donc Irving Kostal qui était l'orchestrateur et chef d'orchestre du film.
Et j'ajouterai du coup pour Spoonful of Sugar que c'est Julie Andrews qui a suggéré que ce soit une nouvelle composition qui soit créée par les frères Sherman, parce qu'à la base les frères Sherman avaient écrit un autre thème pour Mary Poppins qui s'appelle Through the Eyes of Love, et en fait quand Julie Andrews l'a écouté, elle leur a dit, en gros, oui, c'est bien, mais je trouve que ça fait pas assez Poppins, ça fait pas assez le personnage. Et du coup, ils ont composé Spoonful of Sugar, l'anecdote est plutôt connue, et elle est très bien retracée dans le film Dans l'ombre de Marie, du coup, quand le fils, alors je sais plus si c'est Richard ou Robert, je crois, non, c'est le fils Richard. De Robert. Non c'est Robert
non.
Le fils d'un des frères Sherman est revenu après s'être fait vacciner et il lui avait donné un module pour faire passer la médecine. Enfin, bref, c'était pour la polio, je crois. Bref. Et donc, du coup, c'est le déclic qu'il a eu en rentrant quand il expliquait sa journée à l'école. Il a tout de suite appelé son frère compositeur, du coup, et ils se sont mis dessus. Et le lendemain, il est né A Spoonful of Sugar.
D'ailleurs, ça me fait penser, vu que tu as dit la médecine a coulé, etc.
Oui.
Je fais un mini interlude tradaptation parce que les musiques donc de Mary Poppins en français ont un travail extraordinairement compliqué, je trouve, que les paroles françaises ont voulu tellement coller aux paroles anglaises qu'il en arrive des phrases absolument très étranges. C'est le morceau de ce crime, la médecine a coulé. C'est vraiment la médecine a coulé. Moi, je sais que la première fois, je n'ai rien compris à ce qui se disait. Et il a fallu que j'aie les paroles sous les yeux pour comprendre ces paroles.
La médecine a coulé.
Oui, c'est ça.
Parce que c'était médecine a coulé, ouais.
Et c'est puis Paris, après, c'est ça.
Il y a aussi la fameuse référence pour voir à quel point les frères Sherman ont réfléchi. Alors, est-ce que c'était romancé aussi dans le film? En tout cas, ça fonctionne bien. Hein, la médecine a coulé. Quand on coule, ça descend. C'est la gravité. Et pourtant...
C'est une vraie anecdote, ouais. Et du coup, je suis allé vérifier, c'était bien Robert Sherman, son fils, et c'était bien pour le vaccin de la polio.
Voilà. D'accord.
Ah, bah... rapide.
Donc ensuite, la chanson se finit en apothéose, où Mary Poppins arrive à tout galer et puis la chambre est rangée. Les enfants sortent et ils vont se promener. Ils vont se promener, ils croisent Bert qui normalement chante Chemlin une nouvelle fois. Et tout d'un coup, on a un autre thème qui tout doucement ressurgit. Qui est le thème de Jolly Holiday. Il rentre dans les pavés avec Bert, qui a fait ses dessins. Et cette chanson-là commence à sonner. C'est une chanson d'un style de musical. En tout cas, c'est ce qui est écrit sur la partition. Elle devient vite un standard avec énormément de variations. Il y a un certain nombre, comme toujours, un certain nombre de mesures. Et puis, on va vite, facilement tourner en rond. La première fois qu'elle apparaît, c'est une sorte d'écho. Puis, elle s'impose vraiment dans la musique avec une imitation d'orgue de barbarie au moment où les enfants en fait vont sur le carrousel et faire du cheval sur le manège. Et ensuite on est sur plein de variations avec Bert et Mary Poppins qui vont prendre le thé sous un arbre dans les campagnes imaginaires anglaises. On a une première version, on a une version avec, où les deux se dialoguent, une version où il y a Mary Poppins, il y a une version où d'un coup les pingouins arrivent en trombe avec un bruit de casou et puis les corps qui font plein de très très rapides. On a un magnifique rap slam, je sais pas ce qu'on peut dire, de Dick Van Dyke, qui était un des premiers rap même.
C'était pas l'un des premiers, il y a eu pas mal de musicals auparavant. Bien sûr, c'est à ce moment-là que j'oublie totalement le nom du musical dont je vous ai parlé. Mais il y a déjà des comédies musicales qui ont des moments quasiment, entre guillemets, rappés. Et ce depuis des années sans problème. Je vais vous chercher ça.
Bien avant Hamilton.
Bien avant Hamilton.
Et voilà, donc après toute cette séquence-là commence un petit peu à s'estomper. Et on revient vers le carrousel, on réentend la musique du carrousel, tout le monde monte sur les chevaux commencent à se promener. On a une version un peu plus campagnarde pour montrer la chasse au renard. Et tout à la fin, on est sur une version très rapide. Avec des rythmes vraiment très très rapides où la mélodie est insinuée lorsque donc on rattrape le renard, on fuit et puis on arrive en fait sur la course dans l'hippodrome. Cette course sur l'hippodrome, d'un coup, elle fait un fondu enchaîné sur la nouvelle chanson Supercalifragilisticexpialidocious. Et c'est encore plus difficile à écrire sur Word que à le dire.
Mais non, il suffit d'un petit peu d'entraînement.
Si tu as d'autres choses à dire sur Jolly Holiday, qui est une séquence quand même plutôt vraiment très très longue, qui fait 7-8 minutes, je crois, dans le film.
Je dirais que c'est surtout une séquence de savoir-faire technique, on va dire, où ils montrent depuis les Trois Caballeros, en fait, l'animation, le mélange d'animation et d'acteur n'a jamais été aussi convaincant. Donc en fait, c'est surtout une vitrine, je trouve. Et le thème Jolly Holiday, c'est un peu le thème de la pseudo-romance qu'il peut y avoir entre Mary Poppins et Bert. C'est leur terme musical à eux deux, je dirais.
Oui. Parce que c'est vrai que c'est une des premières séquences d'animation... c'est pas une des premières séquences... Non, c'est la séquence d'animation du film qui est vraie. C'est vrai qu'elle est vraiment très conséquente. Dans le film, dans l'ombre de Marie, il y avait comme quoi Pamela Travers ne voulait pas d'animation et que ça aurait fait scandale, cette séquence avec les pingouins. Je ne sais pas jusqu'à où, c'est vrai.
Oui, après, elle ne voulait certes pas d'animation, etc. Mais elle avait beau critiquer le film dans les médias. C'était une personne très dure en façade. Il y a quand même des indices qui font penser qu'elle ne détestait pas autant le film qu'elle semblait le dire. Elle aimait critiquer dans les médias et dire que non, c'était pas bien. Maintenant, il faut quand même savoir que dans les années 80... quand la Walt Disney Company l'a approché pour faire une suite, à l'époque de Michael Eisner et tout, elle était d'accord. Donc, c'est qu'elle n'a pas gardé une expérience si traumatisante que ça. Je pense qu'elle a beaucoup exagéré. Je pense que oui, il y a des choses qui ne lui ont pas plu, mais il y a des choses qui lui ont plu, c'est juste qu'elle n'osait pas forcément le dire. Enfin, c'est une personne complexe, de toute façon.
Oui, on est d'accord.
Et donc voilà, donc on arrive à la super Bref, supercalifragilisticexpialidocieux. Les mots chiants, c'est pour moi, c'est vrai. Nouveau standard de 16 mesures. Ce mot, au final, l'explication de tout et de rien à la fois. C'est un grand moment de virtuosité aussi, sur le point de vue musical. Et, c'est très difficile. Il y a une sorte de yodel. Il y a ce mot qui est compliqué à dire. La musique accélère de plus en plus. Donc, sur le point de vue articulation, tout ça, c'est vraiment compliqué. Voilà, je trouve qu'il y a Jolie Holiday qui est la virtuosité d'animation, et puis de l'autre côté, il y a Supercalifragilistique qui est le monde de virtuosité musicale. C'est rythmé, c'est dynamique, après cette promenade anglaise très légère et soulageante, ça permet de relancer un petit peu le film.
C'est vraiment un classique en plus de la comédie musicale, hein, ce film, dans tous les cas. D'une, tout le monde le connaît. Mais même dans le milieu de la comédie musicale, c'est un classique. Dans la comédie musicale, dont on parlera plus tard, il faut savoir qu'à un moment, tout le monde chante et danse en même temps. Il y a aussi des canons qui sont créés sur Supercalifragilisticexpialidocious. Donc c'est vraiment quelque chose d'impressionnant à voir.
Et donc, tout le monde... Donc bref, il commence à pleuvoir, les images sur les pavés commencent à s'effacer, et donc tout le monde revient dans le monde réel. La chanson suivante, c'est « Stay Awake ». Tout le monde se couche, Mary Poppins conclut donc la journée qui vient de se passer en fait par une berceuse très gentille et très mignonne qu'on retrouve pas dans le film. Voilà, tout le monde s'endort dessus. Enfin, je n'ai pas retrouvé de référence à cette chanson là dans le film.
Non, elle est pas répétée. Par contre, à la base, ça devait être une autre chanson, ça devait être The Land of Sand qui devait être jouée, donc la terre de sable en référence au marchand de sable. Et qui n'a pas été gardée, mais elle a été réutilisée pour le livre de la jungle. C'est devenu Trust in Me, la chanson de Ka. Rien ne se perd, tout se transforme chez Disney. Toujours.
Grande cassure, le lendemain, la chanson suivante, c'est I Love to Love. Rupture brutale, on vient en aide à l'oncle Albert qui, quand il est pris d'un fou rire, s'envole. La chanson a un côté très festif, à la limite de la lourdeur. Quand je dis lourdeur, c'est pas négatif, hein, c'est quand même positif. C'est... Le côté bon vivant, tout ça, l'oncle Albert, il rit, il s'amuse, il fait des blagues de piètre qualité, tout le monde s'amuse avec beaucoup de puérilité. L'esprit, il est vraiment renforcé par le tempo de valse à trois temps, c'est quelque chose de vraiment très dansant, ça fait penser un peu aux fêtes bavaroises, parce que tout le monde, il boit une chope de bière, et puis il est bourré. Et puis l'orchestration, en plus de ça, elle est très, très populaire, donc ça renforce la chose. Le seul moment où vraiment l'atmosphère redescend, c'est lorsque Albert est triste et il se met à pleurer, et puis il redescend, la musique est de plus en plus calme, et puis au final ça repart. Il y a un interlude à l'intérieur qui permet un petit peu de casser le côté répétitif de la chanson, où on décrit en fait chacun des rires existants, et qui permet aussi à Mary Poppins d'enlever en fait la tension négative qu'elle apportait à la scène. Donc, elle arrive, elle est agacée de voir l'oncle Albert et puis Bert qui sont là-haut en train de rire bêtement de manière assez stupide. C'est là que ça redescend, et puis c'est à ce moment-là après qu'elle commence un petit peu à s'amuser, et puis la chanson explose tout à la fin dans l'engouement et la joie. Et la chanson suivante, c'est peut-être la plus jolie chanson, c'est la plus jolie chanson du film, c'est Feed the Birds. La chanson Feed the Bird, les enfants banques sont un petit peu d'argent de poche. Mary Poppins leur chante une mélodie à propos d'une vieille dame qui vend des sacs de graines pour les oiseaux devant la cathédrale. Je me suis peut-être trompé, c'est Saint-Pierre ou Saint-Paul ?
Saint-Paul.
Saint-Paul.
Saint-Paul, ouais.
Donc c'est une sorte de berceuse très calme où elle parle en fait des valeurs de partage aux enfants. Le début est très raconté, hein. C'est très roubato, c'est très libre. L'accompagnement en dessous, il est vraiment hyper dépouillé. Et puis juste après, il y a ce qu'on peut encore appeler une berceuse. Tant, 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 tant Et ensuite, il y a l'interlude qui, quant à lui, montre un peu plus le caractère de la vieille dame. Et puis ça se refinit vers ce refrain. Il paraîtrait que c'était la chanson préférée de Walt Disney.
C'est le cas.
Il confirme.
Oui, non, bien sûr, mais l'anecdote est connue aussi, c'est les frères Sherman, quand il avait fini sa journée de travail, en fait, le bureau des frères Sherman était situé à quelques pas du bureau de Walt Disney. Ils étaient vraiment à côté quand ils composaient leur numéro. Et quand le soir, voilà, il avait quasi fini sa journée de travail, Walt Disney venait les voir et les invitait dans son bureau et il disait juste play it, autrement dit, jouez-le. Et il savait ce qu'il devait jouer, c'était Feed the Bird. Donc ça, on le voit, Richard Sherman le fait encore. C'est la seule personne autorisée à jouer encore sur le piano de Walt Disney dans le bureau qui a été reconstitué.
La chanson suivante, c'est une grande cassure. Fortunately,
Ah oui.
Fiduciary Banks. Si les enfants ont un petit peu d'argent, que Mary Poppins leur conseille d'acheter des graines, lui, le père, à l'inverse, il est beaucoup plus capitaliste dans l'âme. C'est une sorte de chanson de propagande chantée en fait par le patron de la banque où travaille le père. Et en fait, la chanson conseille aux enfants de placer leur argent dans la banque de manière totalement utile. Donc en fait, la chanson présente l'aspect d'entreprise capitaliste financier en fait de l'homme de l'homme le patron, puis en même temps l'homme le père. On a une chanson qui est plutôt marcato, droite, énergique, presque violente, un peu à l'image de The Life I Lead. On sent que The Life I Lead, c'est le père qui se présente, qui montre comment il est lui. Et puis, à côté de ça, on a Fortunately for the Cherry qui affirme en fait le caractère du père et puis qui montre que son travail, c'est son travail. Il y a rien d'autre ne pourra l'empêcher de faire autre chose. Voilà, donc elle est dans le même esprit. C'est affirmé lorsqu'on dit clairement on donne l'argent et puis accélère. C'est affirmé dans une première partie où on explique, on dit donne l'argent. Et ensuite, on énonce plein d'idées. Et la musique, pour l'instant, elle accélère. Tout le monde parle de plus en plus vite en se superposant. On explique pourquoi il faut donner l'argent, quel est l'intérêt de donner l'argent par rapport à soi-même et puis par rapport à la banque. Et elle est intéressante sur le point de vue en fait de l'orchestration, parce qu'on a l'aspect militaire vraiment du patron, et puis le gars qui dit donne-moi ton argent, je vais le capitaliser, l'argent ça fait toute ma vie. Et puis à côté de ça, il y a le patron qui va parler aux enfants et puis qui dit donne-moi ton argent, ça serait sympathique, tu verras, ça te fera beaucoup de bien. Et lorsque le patron il explique que c'est pour lui, la musique est vraiment très militaire, très marcato. Et puis à l'inverse, il y a une imitation de boîte à musique lorsqu'il va parler en fait aux enfants. Et c'est là que c'est intéressant, Feed the Birds et puis Fortunately, Feed the Cherry Banks. C'est que lorsque les enfants ont peur du patron et puis ils fuient les banquiers, à ce moment-là, tout le monde voit des gens courir, il faut fermer les portes, tout ça. Il y a tout le monde qui a peur, et quand on a peur, on met la musique Fidelity Fiduciary qui va de plus en plus vite, qui est de plus en plus instable, qui provoque la tension. Et puis à côté de ça, quand on montre les enfants qui fuient et qui eux ont peur, on met la musique Feed the Birds qui s'accélère aussi et qui est en tension. En fait, il y a un mélange, il y a une sorte de mash-up des deux thèmes qui montre que il y a de la peur, c'est jamais pour les mêmes raisons. Et en fait, voilà, tout le monde fuit de manière différente. Et la musique, elle s'arrête en fait sur une reprise de Chim Chimney par Bert avant que tout le monde n'aille sur les toits pour chanter Step in Time. Et ensuite, donc on arrive sur la chanson Step in Time, qui est le grand moment de comédie musicale du film.
Ah oui, totalement.
On peut pas faire mieux. La chanson, c'est toujours un standard, c'est très court. Il y a une mélodie qui est tout le temps répétée en boucle, mais elle est tellement bien orchestrée à chaque fois, et elle avance tellement bien dans la progression narrative, que c'est clairement du génie. C'est la chanson des Ramoneurs, c'est la chanson de Berthe. Tous les Ramoneurs dansent et chantent en rythme sur une chanson qui demande de garder le rythme, de step in time, de garder le temps. C'est un grand thème et variation narratif qui décrit la folie des Ramoneurs, de Berthe, des enfants et de Mary Poppins. Ce qui est intéressant aussi, c'est que plus l'action avance, plus les Ramoneurs font clairement les fous. Quand ils rentrent dans la maison, par exemple, on voit la mère, c'est là que revient le thème des suffragettes. Le père rentre à la maison, il demande qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est ce foutoir, on réentend le thème du père. Mary Poppins commence un petit peu à s'y mettre, on entend Spoonful of Sugar. Je peux pas en dire plus, à part que c'est extrêmement bien fait, parce que son point de vue d'orchestration, c'est hyper riche, tout est vraiment fait pour avancer, on reconnaît la mélodie, elle est déformée, elle est reformée, c'est de la virtuosité orchestrale. et la musique et les ramoneurs disparaissent en même temps que le père donc ne rentre et commence à reposer un petit peu la situation.
Ce morceau est un classique vraiment du monde de la comédie musicale également, au même titre que Supercalifragilisticexpialidocious. Ouais, j'ai réussi. Et pour le coup, dans le musical Mary Poppins, ce qui est super intéressant, c'est que les danseurs sont mais d'une précision extraordinaire. Et il faut savoir que avant Step in Time, pour le coup, on a Bert qui va monter au plafond, vraiment, qui va marcher sur le mur et qui va monter jusqu'au plafond. Et c'est un effet qui est très très sympa et qui va lancer justement Step in Time. Après la peur qu'il y a eu pour Fortunity Fiduciary Banks, que tu prononces mieux que moi, on a ce petit moment de pause avant de repartir dans une folie, mais non pas une folie apeurée, mais une folie électrique.
Qui rassure beaucoup. On a envie de faire un truc avec. Donc la chanson se finit, un joli fondu enchaîné musical et puis visuel. Et là, la musique suivante, c'est A Man Has Dreams. Et cette chanson-là se divise en trois moments. C'est une séquence pour le père Banks. Au début, il raconte ses mésaventures, ce qui se passe à la banque, tout ça. Il n'en veut pas vraiment à ses enfants. Il le raconte, c'est plutôt narratif. Au niveau de la mélodie, c'est très très simple, toujours sur la note, tout ça. Mais ça revient toujours au final à lui. Il chante la chanson The Life I Lead par rapport à ce qui s'est passé. Et puis au fur et à mesure, il se rend compte à quel point le travail prend de la place dans sa vie, et à quel point c'est vraiment très 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 mauvais par rapport à sa famille. Et la chanson Spoonful of Sugar commence à arriver tout doucement dans sa bouche, dans sa voix. Et c'est là qu'il commence à reprendre en compte tout doucement, mais pas encore officiellement, l'importance de sa famille et de ses enfants. Ensuite, il est convoqué devant son patron, et il se fait renvoyer, après clairement qu'il est craqué, et qu'il ait tenu des propos que jugeait absurde, déjà qu'il jugeait lui absurde avant, mais qu'il a commencé à tenir, et que ses patrons, par la suite, eux, ont jugé aussi absurde. Par exemple, il a balancé le mot supercalifragilisticexpialidocious, ce qui n'avait aucun rapport par rapport au truc, mais oui, en même temps, ça justifie tout et rien.
Et surtout que c'est le moment, ça révèle le moment de l'illumination où il comprend. C'est le moment où il comprend le sens d'un mot qu'il n'en a pas. Et donc,
c'est ça.
C'est ce qui fait basculer, c'est là qu'il va pouvoir commencer sa rédemption.
Et voilà, avec A Man Has Dreams, il commence seulement à se rendre compte. Voilà, c'est le mot qui le fait tilter. Donc c'est là qu'au final, on peut se poser la question que tu posais dans le résumé, Alex. Est-ce que Mary Poppins, elle est là pour les enfants, pour garder les enfants, pour la recadrer un petit peu? Ou est-ce qu'au final, elle est là pour le père Banks et le remettre dans le droit chemin, si on peut dire?
Mais au final, la réponse, c'est un peu les deux, parce que si les enfants se sauvent, c'est qu'eux-mêmes, ils ne ressentent pas d'amour familial chez eux. Donc, si on résout le problème à la source, ça résout le problème des enfants.
Le problème, c'est les parents.
C'est très bien. Le problème, c'est toujours les parents. Hein.
Le film se termine sur Let's Go Fly a Kite, qui est une jolie valse enfantine, comme une comptine, où le père est sauvé, tout le monde s'amuse avec le cerf-volant. Au final, il y a toujours cette histoire un petit peu du vent. Le vent arrive avec Mary Poppins, il va sauver les choses, et puis ça se finit, le vent fait envoler les cerfs-volants, et puis je suis.
Fait envoler Mary Poppins.
C'est ça.
Et puis ça se termine du coup sur une activité qui est totalement anodine, mais qui en fait, il y a un sens énorme en fait, pour les personnages. Voilà, qu'est-ce qu'elle allait faire voler son cerf-volant, ça n'a rien d'extraordinaire, mais quand tout le quartier se réunit et que la famille Banks est au complet pour juste faire s'envoler un cerf-volant, c'est que Mary Poppins a réussi sa mission.
C'est ouais, ça.
Totalement.
Elle a réussi aussi à faire rire le patron de la banque qui en est mort. Elle a réussi à faire ressortir les fils du patron pour faire le cerf-volant. Enfin voilà, Mary Poppins, le cerf-volant et puis le vent, c'est l'élément qui résout le film. Donc les orchestrations sont faites par Erwin Kostal, qui s'est aussi chargé à l'époque de L'apprenti sorcière, de Peter et Judge le dragon, ou encore de West Side Story. Donc je pensais que Bernstein avait composé toute la musique de West Side Story, c'est-à-dire les parties piano, et qu'il avait fait aussi les orchestrations. Mais non, c'est Irving Kostal qui s'est chargé des orchestrations de Leonard Bernstein.
Et pour Disney, c'est aussi lui qui a fait la réorchestration de Fantasia aussi.
Oui, en 85. Qui n'est pas utilisé dans les Fantasia actuels. Que je pense que tu l'as vu dans le Walt Disney Records Legacy Collection.
Oui, il y a les deux, mais forcément, il ne s'est pas utilisé parce que ça reste la version d'origine qui est proposée. Oui. Enfin, moi, ça ne me choque pas.
On a discuté dans le flanc sur Fantasia avec Rien que d'y penser. Je trouve la version d'Irene Costal beaucoup plus propre. En même temps, elle a 40 ans de plus. 50 ans,
c'est important d'avoir un peu le grain de l'époque.
C'est enfin, ça.
Ouais, ouais. Cher.
Le grain du vinyle, le fameux. mais oui, donc il s'était chargé des réorchestrations, de donner aussi son idée par rapport à ça. Il a fait vraiment un travail qui est quand même assez exceptionnel, de trouver les bons instruments par rapport aux idées, sachant que les frères Chaman ont juste composé les chansons et fait les paroles. Les frères Chaman ont toujours été des paroliers, mais pas du tout des orchestrateurs. Par exemple, par rapport à ça, dans la version d'It Is Small World aux États-Unis, c'est Bob Hammack qui a fait la musique. Pour montrer à quel point ce qu'a fait Irene Costal est un chef-d'œuvre, il faut écouter l'ouverture de Mary Poppins, le fameux pot pourri d'ouverture des comédies musicales. L'orchestration, elle est super riche. Chaque instrument représente bien chacun des personnages, chacun des thèmes, l'importance des thèmes. Et il y a beaucoup de contrastes. Bref, c'est quelque chose C'est une virtuosité orchestrale et qui, sincèrement, n'a pas pris de ride du tout. Et voilà, moi, ce que j'avais à dire sur la musique.
Eh ben, c'était quand même super intéressant, je trouve. Enfin, tu parlais justement de l'ouverture. C'est vraiment une ouverture à la comédie musicale parfaite où on introduit tous les thèmes qu'il va y avoir par la suite. Il est magnifique. Cette ouverture, elle est magnifique. On va maintenant parler un petit peu, rapidement, du musical Mary Poppins.
By the time the wind has blown the weather vane around, I'll show you if I can. No matter what the circumstance, for one thing I'm renowned. My character is spit spot spick and span. I'm practically perfect in every way.
Practically perfect. Il faut savoir que en 93, un producteur anglais nommé Cameron Mackintosh. Cameron Mackintosh, c'est le producteur des Misérables et du Fantôme de l'Opéra, entre autres. D'accord.
C'est le gros producteur de Londres.
C'est le plus grand producteur, le plus important. Ah, c'est l'un des producteurs les plus importants du West End, donc à Londres. A rencontré Pamela Travers en lui proposant d'adapter le film en musical. Elle accepte. À condition que les créateurs soient tous anglais et que personne n'ayant participé au film n'y participe. C'est-à-dire que on prend le film, on va faire en sorte que ce soit des anglais cette fois-ci qui font le musical. Et si jamais il y a quelqu'un qui a bossé sur le film, il n'a pas intérêt à mettre ses pieds dans la création du musical.
Ça montre à quel point ce que tu disais tout à l'heure, Steamboat, c'est que Pamela Travers avait un caractère assez trempé et des choix plutôt spéciaux.
Oui, et puis je pense qu'elle a pas trop apprécié par contre vraiment le travail des frères Sherman, leurs chansons, et surtout quand elle a précisé ça, Robert Sherman lui est parti revivre à Londres, en Angleterre, tandis que Richard est resté aux États-Unis. Donc Robert aurait très bien pu travailler dessus, mais elle ne tenait absolument pas à ce qu'il n'en passe pas.
Et donc, 40 ans après le film, une première adaptation en comédie musicale de Mary Poppins arrive en 2004 à Londres. Alors il faut savoir que les compositeurs George Stiles et Anthony Drew ont créé un nouveau morceau pour ce musical qui s'appelle entre autres Practically Perfect, qui a reçu un retour très très positif. Et il faut savoir du coup que c'est la première comédie musicale Disney à avoir été créée entièrement, en toute logique, en Angleterre. En 2004, donc, le musical ouvre à Londres. Il reçoit deux prix très importants. Le prix de la meilleure actrice pour Laura Michelle Kelly et du meilleur chorégraphe pour Matthew Bourne et Stephen Mear, donc à l'occasion des Olivier Awards, des Laurence Olivier Awards. Alors, Laura Michelle Kelly jouait du coup Mary Poppins. Il faut savoir que Laura Michelle Kelly a auparavant joué Éponine dans Les Misérables, Sophie dans Mamma Mia, Elisa Doolittle dans My Fair Lady et donc elle avait quand même pas mal de bagages derrière elle. Il faut aussi savoir qu'elle a joué Galadriel dans la production originale du musical Seigneur des Anneaux à Londres en 2007. car oui, si vous ne le savez pas, il y a un musical de Seigneur des Anneaux.
Aussi long que le film.
Oh, t'as jamais vu le film, non. J'ai entendu. Hein. Et elle a aussi joué un rôle que j'adore énormément, Sylvia Llewellyn Davies, pour la création du musical Finding Neverland à Broadway. Finding Neverland, c'est sur l'histoire un petit peu de G.M. Barrie, le créateur de Peter Pan. Nous avons aussi dans le rôle de Bert, Gavin Lee, qui a eu le Tony Award, non, le Drama Desk Award, excusez-moi, du meilleur second rôle dans un musical lorsqu'il a joué Bert à Broadway. Il a donc joué Bert dans le West End et à Broadway. C'est le seul, pour le coup, à avoir fait les deux. Gavin Lee, si vous voulez savoir, il a aussi joué un personnage aux multiples bras, car il a joué Carlo dans le musical Bob l'éponge à Broadway en 2016. Pour Broadway, donc Broadway en 2006, Tony Award de meilleur design scénique, Drama Desk Award également, donc j'ai parlé du meilleur second rôle tout à l'heure, et Drama Desk Award du meilleur design scénique également. Il était censé y avoir, en France, une adaptation française du musical Mary Poppins en 2013. Par Stage Entertainment, et ça devait être au Théâtre Mogador. Ça a été annoncé le 17 octobre 2012 pour la rentrée 2013, septembre 2013, mais malheureusement, ça a été annulé et remplacé par La Belle et la Bête, alors que les auditions pour Mary Poppins avaient déjà été faites. Et en plus, je connaissais la Mary Poppins. Ce qui est très drôle, c'est que la Mary Poppins qui était censée jouer au Théâtre Mogador, eh bien, elle a fini par faire la voix française dans Le Retour de Mary Poppins.
D'accord.
Donc finalement, ouais, c'est plutôt sympa comme anecdote, je trouve. Et finalement, la première version française se déroulera au Canada, à Montréal, au Théâtre de Saint-Denis. Voilà pour l'histoire de la comédie musicale.
Donc c'est Léo Vaniero, c'est ça ?
Exactement, Léo Vaniero. En tout cas, elle était dans le trio de tête pour faire Mary Poppins au Théâtre Mogador. Et pour le coup... Avant que le Roi Lion ne revienne, il a été en discussion, est-ce que Mary Poppins se reviendra ? Est-ce que, comme on avait déjà toute l'adaptation qui était faite, qui avait déjà été travaillée, elle a été faite au Canada en plus, est-ce qu'on va le faire, est-ce qu'on va ramener Mary Poppins en France ? Et toujours pas. Et pourtant, ils avaient même fait une... comment on appelle ça ?
Ce qu'on avait parlé, du sondage... c'était quoi ? Il y avait Aladdin, Le Roi Lion, Mary Poppins et le dernier, je ne sais plus.
Anastasia,
ouais. Tu avais aussi répondu au sondage, c'est ça ?
Oui, j'avais voté Mary Poppins ou Aladdin et tout le monde a revoté Le Roi Lion qu'on a déjà vu, mais bon, très bien. Voilà.
J'avais voté pareil que toi.
Je voulais Aladdin. La séquence de Friends Like Me est magique dans Aladdin.
J'ai vu Aladdin dans le West End, enfin à Londres, et c'était extraordinaire. Ouais. Et donc, après Mary Poppins, que s'est-il passé ? Alors déjà, on a eu le retour de Mary Poppins. On a eu également Saving Mr. Banks dans L'ombre de Mary, qu'il faut absolument que vous voyez. Prenez ça comme un film, on le répète, prenez pas ça comme une biographie extraordinairement précise. Et dans les parcs Disney, où est-ce qu'on peut la retrouver, Max ?
On peut la retrouver au fast-food de Jolly Holiday Bakery Café sur Main Street à Disneyland. En 2012.
Alors, je pense pas qu'on la retrouve, je suis pas sûr qu'elle y aille forcément dans ce fast-food. Si elle va parfois derrière le comptoir.
C'est-à-dire que Mary Poppins est surtout très présente dans Main Street, c'est l'élément qui rappelle plus le début du siècle et qui fait qu'elle peut s'épanouir dedans. Mm-hmm. Donc, nous à Disneyland Paris, c'était surtout Swing Into Spring,
ouais.
Où elle a eu ses shows, propres shows, et c'était justement à l'occasion, alors 64. C'était du coup les 50 ans du film, qui avait eu toutes ces festivités.
De 2014 à 2016, oui, il y a eu Swing Into Spring à Disneyland Paris.
Et
honnêtement, l'orchestration qu'il y a eu pour Swing Into Spring de Let's Go Fly Cal, je la trouvais exceptionnelle.
Elle est magnifique. Elle est très très proche de l'original. C'est Vasily Serly qui l'avait écrit. Et il me l'avait, je pense que j'avais pu le rencontrer, il m'avait dit qu'il s'était vraiment rapproché de l'original, il le fallait. Il avait rajouté un peu de légèreté pour donner ce côté printemps extérieur, champêtre, mais c'était vachement inspiré de l'original. Il pouvait pas faire autrement.
J'avais pas vu Mary Poppins depuis que j'étais gamin, et entendre cette mélodie, à chaque fois, elle m'émouvait énormément, donc il a fait un sacré boulot et surtout ça me montre vraiment à quel point ce morceau est magnifique.
Et puis on la retrouve c'est pareil, je pensais dans la cassette Chantons Ensemble, Allons à Disneyland Paris qui est sortie dans les années 90, je crois qu'elle apparaissait aussi dans la chanson sur Main Street USA. Dites-moi le titre. Walking Down Main Street USA, ouais. Je crois. Et puis les costumes étaient très inspirés aussi de la séquence de Jolly Holiday. Mais de manière générale, elle est quand même sur beaucoup de spectacles et beaucoup de parades dans les parcs
Oui,
Disney.
On ne les a pas marqués, j'avais vu, je crois que c'était elle a fait une bonne dizaine de parades.
Elle a fait par exemple les 4 grosses parades diurnes. Les 4 grosses parades, non, les 5 dernières grosses parades, enfin bref, toutes les parades diurnes depuis 98. Conséquente, celle de 4h30, 5h, elle apparaissait dessus à chaque fois.
Voilà, et c'est ainsi que nous avons fait le tour de Mary Poppins, j'ai envie de dire.
De cette musique, oui.
Cette phrase est un petit peu spéciale.
Guillaume, on te laisse ouvrir, enfin on te laisse fermer plutôt ce live avec une conclusion. Qu'en penses-tu de Mary Poppins, même si je pense que l'idée est déjà faite, on a déjà une idée. Et de ses musiques,
ça n'a pas changé depuis l'intro, mais voilà, Mary Poppins c'est culte, ça restera indémodable. Enfin, ça continuera à vivre pour encore des générations et des générations, et ça émerveillera encore autant de monde. Voilà, il suffit de voir. Je vais citer un exemple franco-français, mais le fait que le film se diffuse tous les deux ans à Noël à la télévision et que ça cartonne encore toujours autant, alors c'est quand même un vieux film. Enfin, c'est pas quelque chose qui rassemble encore les gens d'aujourd'hui, et pourtant Mary Poppins, c'est transgénérationnel.
Qu'au final, il pourrait même... Parce que le retour de Mary Poppins, c'est un pur copier-coller de Mary Poppins, et il pourrait le diffuser maintenant à sa place pour plaire aux nouvelles générations. Mais oui, il y a toujours ce côté nostalgique de l'ancien Mary Poppins, excusez-moi.
De l'ancien Mary Poppins. Et le retour de Mary Poppins a parfaitement repris, enfin, je trouve personnellement, a parfaitement su copier, on va dire, les décors, l'âme, la musique et tout. Le problème, c'est que la musique, au final, peu de gens la chantent, la retirent, enfin... Peu de gens l'ont pris dans leur vie comme un Let It Go de la Reine des Neiges ou un Remember Me de Coco. Et donc, je pense que malheureusement, même si moi j'aime bien le film, je suis pas sûr qu'il vivra. Enfin, ce qui est sûr, c'est qu'il ne vivra pas c'est aussi sûr. Bien que l'original. Mais est-ce qu'il sera encore, on va dire, remémoré d'ici quelques décennies? Je ne sais pas. Je ne suis pas convaincu.
Je pense pas. C'est vrai que j'avais été, quand j'avais été voir le film, j'avais été gâché un peu par. Connard devant qui était venu avec ses enfants et qui soupirait toutes les 5 minutes parce qu'il y avait une belle chanson.
Insupportable.
Il vient avoir une comédie musicale, il faut s'attendre à avoir des chansons, on se renseigne un petit peu aussi avant. Mais c'est vrai que le fait que toutes les chansons dans le Retour de Mary Poppins étaient un copier-coller, on prend un mot difficile dans le premier, on met un nouveau mot difficile dans le deuxième, la séquence d'animation.
Alors pour le mot difficile, je dirais que ça c'est traduction française parce que Luminomagie Fantastique en anglais c'est Triple Little Life Fantastique et ils ont vraiment pas cherché, je dirais, le côté super quali. Maintenant, ils ont vraiment cherché à rester très proches orchestralement parlant, et ça reste quand même réussi. Je pense qu'on aurait tous conspué s'ils s'étaient trop éloignés. Je pense qu'il y avait une balance à respecter, et ils l'ont fait. Après, on aime ou pas, oui, ça s'inspire très très fortement, et c'est le même schéma général. Maintenant, je pense que beaucoup de gens ont apprécié se replonger dans l'ambiance. Moi, le gros reproche que je fais au retour de Mary Poppins, c'est la morale qui fait que les deux Pence qu'on nous décrit dans le film comme... dans le premier où voilà il faut donner l'argent aux pigeons et enfin il y a pas que le monde capitaliste et qu'au final dans le second c'est le monde capitaliste qui sauve toute la famille. Bon, je crois que c'est un peu trahir ce qui était dit dans l'original, mais bon, ouais. On passera ce détail scénaristique, on va dire.
À moi pour le coup, Mary Poppins, j'avais jamais été un grand fan, et en fait c'est le retour de Mary Poppins, même si je l'ai totalement pris comme un film, qui m'a redonné un petit peu d'estime pour ce film. Et c'est après ça que j'ai un petit peu plus regardé, réécouté, etc. Et qui m'a... Ah ouais, quand même, c'est quand même un beau film. Et c'est grâce au retour de Mary Poppins. Donc grâce à une version romancée, je le répète, hein, de l'histoire de Mary Poppins. Et toi, Max ?
Ben, mon côté, je trouve ce film quand même bon petit gars. Hein. C'est merveilleux, ça touche tout le monde, c'est intemporel, ça prend pas une ride. Enfin, je trouve ça... C'est clairement intemporel, quoi. En plus, le fait que ce soit dans une ambiance qui soit... dans une histoire narrative qui soit... Il y a plus d'un siècle maintenant, ça compense un petit peu le truc. Non, je trouve ça génial. Après, les chansons sont extrêmement bien faites. Enfin, les frères Sherman, ce sont quand même les meilleurs chansonniers de chez Disney, parcs et films confondus. Chansonniers, parce que Menken, tout ça, ce sont des compositeurs, ils sont du même niveau que les frères Sherman. Mais, et puis les orchestrations, ce sont quand même des bijoux. Le travail orchestral est quand même très poussé. La recherche du timbre, tout le panel d'instruments utilisés, les couleurs, tout ça, c'est quand même extraordinaire.
On espère que ça vous a plu, que ce live spécial Mary Poppins, choisi par le grand vainqueur du quiz sur les musiques de Disneyland Paris, Steamboat Willie, vous aura plu. Et en tout cas, vous pouvez retrouver Max ici même, sur la Disney Music Box, mais aussi sur Musicland. Vous pouvez me retrouver sur Secret Disney ainsi que la cave d'Alex sur Twitch depuis pas mal de temps. On vous souhaite une très très bonne soirée.
Et on vous laisse avec la musique de fin de live. À bientôt.
With two pens for paper and strings, you can have your own set of wings. With your feet on the ground, you're a bird in a flight, with your fist holding tight to the string of your kite. Oh, let's go fly a kite up to the highest height. Let's go fly a kite and send it soaring up through the atmosphere, up where the air is clear. Oh, let's go fly a kite. When you send it flying up there, all at once you're lighter than air. You can dance on the bridge over houses and trees with your fist holding tight to the string of your kite. Oh, let's go fly a kite up to the highest height. Let's go fly a kite and send it soaring up through the atmosphere, up where the air is clear. Oh, let's go fly a kite.